Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un patrimoine très visible, la cathédrale de Dijon. Cet édifice à l'architecture gothique, qui succède à l'église romane de Guillaume de Volpiano, possède une rotonde que l'on appelle souvent crypte et qui a été restaurée remarquablement par les services de la Direction régionale des affaires culturelles sous la responsabilité de Martin Bacot. Martin Bacot, c'est l'architecte en chef des monuments historiques que nous rencontrons aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'un architecte des monuments historiques? Ce sera notre première question. Bonjour Martin.
Bonjour. Alors, un architecte des monuments historiques est spécialisé dans la conservation et la restauration du bâti ancien. Mais la spécificité des architectes en chef des monuments historiques est en fait d'avoir été recruté par l'État sur concours et d'avoir une mission de service public qui consiste notamment à restaurer les édifices classés monuments historiques appartenant à l'État. Et donc, il y a une quarantaine d'architectes en chef des monuments historiques en France qui sont tous répartis par département avec des attributions donc géographiques et qui conduisent des travaux de restauration sur les monuments classés appartenant à l'État dans ces différents départements.
Crypte, rotonde, qu'est-ce que c'est? Pourquoi l'un? Pourquoi l'autre?
Alors la définition d'une crypte, c'est un espace enterré qui se situe sous une église, un niveau d'église principal et où en général, effectivement, sont très souvent enterrés des saints ou exposés des reliques. Pour ce qui concerne la rotonde de Saint-Bénigne, le mot de crypte est un petit peu impropre parce que, en réalité, il s'agit du premier niveau d'un édifice qui au départ en comportait trois et qui n'était pas enterré, mais seulement semi-enterré, et donc qui avait un apport de lumière naturelle extérieure à l'origine. Et c'est vrai que c'est parce que depuis 1000 ans que cet édifice existe, eh bien, les niveaux de sol autour sont remontés, et aussi parce que les niveaux supérieurs ont disparu, que depuis le 19e siècle où cet édifice a été restauré et où il est visité et utilisé pour le culte, on a pris cette habitude de parler de crypte parce qu'effectivement aujourd'hui c'est un édifice enterré et qu'il n'y a plus les niveaux supérieurs. Mais en réalité, il faudrait parler du niveau inférieur de la rotonde de l'an 1000.
Parlons maintenant, si vous le voulez bien, de cette rotonde. Toutefois, avant d'y pénétrer, en découvrant ses aspects extérieurs, on voit que vos travaux n'ont pas concerné que cette partie de l'édifice. Des marquages au sol dans la cour de l'école d'art voisine doivent avoir, je pense, une signification.
Alors effectivement, restaurer la rotonde, c'était l'objectif principal de cette opération. Mais la situation de la rotonde est assez complexe en réalité parce qu'elle a été, comme je le disais, détruite en partie à la Révolution, enterrée, déblayée et restaurée au XIXe siècle dans une situation qui reste sous le niveau du sol. C'est une situation qui est particulièrement difficile pour un édifice, d'autant plus que depuis le XIXe siècle, les techniques d'étanchéité n'ont jamais été vraiment au point et l'édifice, très tôt, a souffert d'infiltration depuis le sol. En plus de cela, c'est un édifice qui a été restauré à l'occasion de la construction de la sacristie de la cathédrale dans les années 1856 à 1865. Or, cette sacristie, le seul endroit où on pouvait la construire, c'était à l'emplacement de la rotonde. Et donc, le parti qui a été retenu à l'instigation d'Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc, qui était inspecteur diocésain, et qui a été conçu et conduit par l'architecte Jean-Philippe Suisse, qui était architecte diocésain, c'est de construire cette sacristie nouvelle du XIXe siècle au-dessus de la rotonde, en même temps qu'on restaurait la rotonde. Donc, on a une superposition des deux édifices qui fait qu'on ne peut pas travailler sur la rotonde en profondeur sans travailler d'abord sur la sacristie. Or, la sacristie elle-même, tout le monde la connaît à Dijon, c'est cet édifice gothique situé derrière la cathédrale et qui est dans la cour de l'école des Beaux-Arts. La voie qui émerge au-dessus du mur de la cour était dans un état catastrophique, notamment parce qu'elle avait connu des dégradations de pierres anormales, puisque les pierres ont été malheureusement mal choisies au XIXe siècle, ce sont donc des filons de mauvaise qualité. Et il avait fallu déjà, dans les années 40, retirer une partie considérable des décors et des parties supérieures et changer toutes les couvertures. Donc l'édifice se présentait dans un état sanitaire très préoccupant, avec une gestion de l'eau pluviale qui n'était absolument pas résolue. On ne pouvait pas du coup travailler sur la rotonde sans travailler sur la sacristie. Donc on a fait d'abord la restauration de la sacristie en 2 ans, sous un immense parapluie de protection qui en même temps avait permis de protéger la rotonde des infiltrations directes et donc d'assécher celle-ci et de conduire un grand nombre d'investigations archéologiques, puisqu'évidemment, quand on travaille sur un monument de l'an 1000 et qu'on intervient, voilà, on a enlevé toutes les étanchéités, il y avait 6 ou 7 couches d'étanchéité superposées les unes aux autres depuis 1865. Donc là, on a accès en fait finalement à des parties de l'édifice qui sont extrêmement intéressantes à étudier, et donc c'est un chantier qui a eu pour caractéristique d'être extraordinaire en termes de découverte archéologique et qui a complètement renouvelé la connaissance qu'on a de l'histoire de ce monument, qui reste compliqué à comprendre puisqu'il n'en demeure que quelques parties.
Les travaux sur les extérieurs de la sacristie permettent de retrouver tout le sens architectural de cet édifice. Mais qu'en est-il du marquage au sol qui est réalisé à partir de ces pierres de couleurs différentes ?
Alors en fait, on est là aujourd'hui au-dessus de la rotonde. Pour arriver à traduire la présence de la rotonde dont les élévations ont disparu, on a proposé de retraiter le sol avec des matériaux distincts, le béton architectonique pour les parties vides et un pavage de pierre qui reconstitue au sol le dessin de la rotonde. Ça permet de le lire en vue aérienne ou, quand, comme on le fait là à l'instant, quand on se promène dans cette cour qui est ouverte aux étudiants des Beaux-Arts, eh bien, de voir l'emprise du monument et de savoir où on est. C'est un chantier qui a été conduit avec des entreprises spécialisées dans les monuments historiques, mais pas seulement, puisque nous avions aussi beaucoup de travaux d'équipement, quasiment toutes bourguignonnes, ce qui est bien sûr un atout pour le monument, parce que ce sont des entreprises qui lui sont particulièrement attachées, et puis qui connaissent très bien les matériaux locaux. On s'appuie absolument sur le savoir-faire de ces entreprises, et c'est ce qui est merveilleux avec le patrimoine, c'est le savoir-faire qui est autour de ces monuments, qui est suscité par ces monuments, et qui est effectivement expressément local. Pour descendre dans la rotonde, ceux qui ont connu l'édifice avant sa restauration savent qu'il y avait un petit escalier unique du 19e siècle. Alors, pour des raisons de sécurité, il n'était pas possible de descendre à plus de 19 personnes. Ce qui est un véritable problème, on imagine bien, aussi bien pour les visites et pour l'usage cultuel. Et donc, dans notre cahier des charges, il n'y avait pas simplement la question de la restauration de la rotonde et de sa protection à l'eau, il y avait aussi trouver une solution pour faciliter son usage en augmentant la jauge, en permettant à plus de gens de venir et, le cas échéant aussi, favoriser sa mise en accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Et donc, nous avons un peu creusé dans tous les sens par où passer. Et on a fini par proposer un jeu, c'est souvent un jeu de taquin dans l'existant, où on déplace les choses. Donc on a proposé de déplacer la chaufferie pour libérer une cave, de libérer également une partie des étages de l'aile sud de la sacristie dans laquelle nous trouvons maintenant pour créer un nouveau vestibule donc dans les espaces du 19e siècle et d'installer un escalier avec un monte-personne et un élévateur si vous voulez à l'intérieur qui permet désormais de rejoindre la rotonde donc la création de ce nouvel accès est beaucoup plus aisée que le précédent, permet de porter la capacité de la rotonde à 99 personnes.
Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Martin Bacot, architecte en chef des monuments historiques, qui a conduit le chantier de restauration de la rotonde de la cathédrale Saint-Bénigne de Dijon. Nous allons maintenant découvrir le résultat de ces travaux qui ont permis une véritable sauvegarde de cet édifice. Allez, je vous suis.
Ça, c'est un escalier qui est assez extraordinaire dans sa réalisation. C'est un escalier hélicoïdal. Et vous voyez qu'il a un noyau creux.
Oui.
Voilà. Et ça, vous comprendrez tout à l'heure à quel ça permet aussi un apport de lumière plus important au sous-sol.
Oui.
Et vous verrez tout à l'heure dans la rotonde à quoi également ça fait référence dans l'architecture du patrimoine. Voilà.
Nous arrivons maintenant à l'intérieur de la rotonde. Certains pourront dire de la crypte, tant on a le sentiment d'être dans un lieu en sous-sol. Ceux qui ont connu la rotonde avant travaux ne pourront que se sentir dans un autre lieu, plus lumineux, plus chaud, malgré l'absence totale de mobilier, plus paisible. Les couleurs claires, les nouveaux puits de lumière, la nouvelle mise en valeur des chapiteaux. Laissons la parole maintenant à Martin Bacot.
Alors ici, ce qui change à première vue, en premier, d'abord, c'est la lumière. C'est-à-dire que la rotonde étant enterrée, elle ne reçoit sa lumière que par le haut. Et notamment au centre, il y avait avant les travaux un plancher en pavé de verre qui avait beaucoup vieilli, qui avait été installé dans les années 30 et qui en fait ne laissait pratiquement plus rien passer. On a voulu retrouver un éclairage à peu près aussi généreux que celui qu'il y avait à l'époque médiévale. Alors à l'époque médiévale, il y avait deux étages au-dessus de nous en plus, mais on sait qu'il y avait ce qu'on appelle un opaion ou un oculus. L'opaion, c'est le mot grec, l'oculus, le mot latin, et qui, en fait, est une figure d'éclairage zénital qu'on trouve dans le Panthéon de Rome. Et on sait que Guillaume de Volpiano avait établi tout un une série de références symboliques et architecturales avec le Panthéon lorsqu'il a conçu la rotonde. Et donc cet éclairage direct, eh bien, on le retrouve aujourd'hui grâce à un plancher de verre qui est un verre feuilleté, beaucoup plus transparent et qui laisse passer du coup une lumière beaucoup plus généreuse. Et donc on baigne désormais dans une lumière très douce, mais en même temps voilà, qui révèle tous les détails de l'architecture. La deuxième chose qui change, c'est qu'on voit également des apports de lumière secondaire dans les axes. Alors bien sûr, à l'est, au-dessus du martyrium, où se trouvait le tombeau de Saint-Bénigne, et où, sous la lumière, on a réinstallé, avec l'accord du clergé, un présentoir pour le grand reliquaire de Saint-Bénigne, ce qui fait que les reliques de Saint-Bénigne sont revenues dans la rotonde, et donc le sens initial de la création de cet édifice, qui était de pouvoir donner accès aux reliques du saint évangélisateur de la Bourgogne, eh bien, est retrouvé grâce à cette présence. Mais aussi, on voit au nord et au sud deux portes qui n'existaient pas, ou plutôt qui n'existaient plus, et qui donnent accès à des zones qu'on appelle des zones, on va dire, archéologiques, qui sont les vestiges des anciennes tours, puisque la rotonde était bordée par deux tours qui comportaient des escaliers. Ça, on le sait parce qu'on avait des plans du XVIIIe siècle, mais ces tours, c'était des vestiges qui étaient complètement enterrés. Alors, ce sont les plans de Dom Plancher qui avaient relevé avec beaucoup de précision la rotonde avant sa démolition. Et on savait que ces escaliers étaient là, mais ils étaient enterrés et absolument inaccessibles. Le XIXe siècle avait souhaité les restaurer, mais n'avait pas eu l'argent. Les murs, que le XIXe avait dû remonter à neuf, eh bien, passaient devant ces escaliers. On a proposé d'abord de les étudier. Donc, les archéologues du Centre d'études médiévales d'Auxerre ont fait une étude approfondie de ces escaliers et de la communication qui existait à l'origine à la rotonde. On a pu reconstituer cette communication avec des données très précises. Donc, on a deux portes comme ça qui donnent accès à ces escaliers. Alors au nord, c'est un vestige très ténu, il faut reconnaître, mais la lumière arrive. Et au sud, le vestige est plus important et on peut aller le voir. Et donc on a une compréhension de ce qu'étaient ces escaliers. Ce qui est exceptionnel avec ces escaliers, c'est que en fait, ce sont des escaliers circulaires qui tournent autour d'un noyau en maçonnerie qui est creux. Pourquoi s'est-on donné la peine de faire un noyau creux alors qu'un noyau plein aurait été beaucoup plus simple, beaucoup plus stable ? Eh bien, c'est certainement parce que le noyau creux permet, s'il est percé régulièrement, de faire passer la lumière. C'est un exemple que l'on a encore assez bien aujourd'hui dans l'architecture de la Renaissance, par exemple à Chambord, avec un développement évidemment différent. Et bien là, en fait, on serait sans doute sur un exemple rarissime d'un escalier à noyau creux de l'époque médiévale et qui lui-même trouverait ses sources dans une architecture plutôt byzantine, Constantinople. Et donc, ça veut dire que là, encore une fois, Guillaume de Volpiano a pris ses sources dans les plus hautes références, ses sources architecturales. Donc ces escaliers exceptionnels, ce n'est certainement pas des escaliers de service à l'origine, ce sont certainement des escaliers de procession, des escaliers d'accès pour la communauté des moines qui développent en fait une liturgie qui utilise la rotonde comme une extraordinaire machine à prière, si on peut dire, avec un déploiement spatial. Il faut bien relier ces trois niveaux. On sait qu'on avait des chapelles étagées, qu'on avait une vingtaine d'autels, et donc tout ceci suppose des circulations verticales qui permettent l'ampleur des processions et le déplacement digne des célébrants. Et bien voilà, ce sont ces escaliers qui servaient à ça.
La perception que j'ai de cette rotonde m'incite à faire une comparaison avec le Saint-Sépulcre de Jérusalem. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce exagéré ou y a-t-il une filiation ?
Alors, la filiation première, c'est l'usage de l'Antiquité du plan centré, puisque le plan centré dans l'Antiquité est associé à l'architecture funéraire, et notamment le plan circulaire pour les Romains, bien sûr. Donc, si le Panthéon, par exemple, est circulaire, c'est notamment, effectivement, parce qu'il a cette puissance. Et il a d'ailleurs été repris au 5e siècle, lorsqu'on l'a transformé en église, dédiée à la Vierge et à tous les martyrs. Donc il y a cette idée funéraire. Mais ce n'est pas du tout le seul monument de l'Antiquité qui soit circulaire. Et lorsque notamment Constantin a construit un grand nombre de ses basiliques, et notamment le Saint-Sépulcre, il a associé régulièrement le plan basilical à un plan circulaire. Et le Saint-Sépulcre, évidemment, le plan circulaire s'imposait puisque c'est le tombeau du Christ. Ici, à Saint-Bénigne, le rapport entre le Panthéon et le Saint-Sépulcre que Guillaume de Vopagno souhaite établir, alors il est très très certain sur le Panthéon, et sur le Saint-Sépulcre, je dirais, c'est plus un rapport assez courant, tout simplement, de recours à ce plan circulaire. Mais en tout cas, avec le Panthéon, il y a une vraie volonté de reprendre symboliquement, puisqu'il y a une coïncidence, notamment des dates de consécration, avec la Saint-Bénigne et la Toussaint dans l'ancien calendrier, et le 13 mai, qui est également une date liée à la consécration de la Vierge. Donc il y a un lien qui est fait entre l'association du martyr, donc en l'occurrence ici Saint-Bénigne, mais pas que lui, et la Vierge, autour de cette idée de plan centré. Le troisième changement le plus important, après la lumière et la redécouverte des espaces des escaliers, eh bien, ce sont les épidermes, la peau de l'architecture. On se rappelle que, à part les colonnes du XIe siècle, on voyait les murs circulaires en moellons, à moins de l'appareillage d'ailleurs assez raide, hein, puisque tous ces murs ont été remontés au XIXe siècle, mais il n'en était pas du tout ainsi au Moyen-Âge, et il n'en était pas d'ailleurs non plus comme cela au moment du XIXe siècle, puisque la rotonde avait été enduite, et ces enduits qui lissent en fait les murs et qui tendent à donner une expression de perfection en fait de l'architecture, ces enduits avaient été purgés à cause de l'humidité, ils s'étaient décomposés. Et dans la mesure où désormais on a rétabli des étanchéités, on a pu aussi d'abord étudier les vestiges d'enduits anciens et proposer de rétablir les enduits et un badigeon d'harmonisation, c'est-à-dire un lait de l'eau avec de la chaux, ce qui est une pratique qui en fait a toujours été renouvelée dans la rotonde pour ce qu'on appelle blanchir l'édifice. C'est fait régulièrement dans l'histoire des monuments et qui permet de retrouver à la fois une diffusion de la lumière beaucoup plus efficace et beaucoup plus douce et aussi une continuité en fait des surfaces entre les murs, les colonnes et les voûtes. C'est une chose qui est essentielle à la compréhension de l'architecture romane en particulier, qui est voilà, cette espèce d'unité, cette espèce d'infini qu'offre la couverture voûtée en prolongation et en continuité avec les murs et avec les supports de colonnes. On a pour autant quand même découvert quelques vestiges de décors médiévaux, notamment des faux joints, donc un espèce de faux appareil qui imite une construction en pierre de taille. Il en reste très très peu, ils ont été conservés et restaurés sur deux des colonnes, donc ceux qui sont un peu curieux pourront aller à la recherche de ces vestiges. Et pour le reste, cette présentation uniforme en badigeon correspond en tout cas à une présentation unie et qui a sans doute été celle qui très vite a été donnée à partir de l'époque moderne. On sait que la rotonde a été blanchie plusieurs fois pour lui redonner un petit coup de neuf, et donc c'est un petit peu ce qu'on trouve aujourd'hui.
J'ai cru comprendre que vous alliez vous attaquer peut-être à la flèche de Savelignes.
C'est un projet indispensable là, qui nous attend effectivement, puisque la ministre de la Culture l'a annoncé, et ça, on en est très heureux, parce que la flèche a absolument besoin d'une restauration fondamentale, et donc on est en train d'étudier le sujet.
Merci Martin Bacot. Je rappelle que vous êtes architecte en chef des monuments historiques. Vous venez de donner à ceux qui nous écoutent plusieurs clés de compréhension qu'ils pourront utiliser lors de leur visite à Saint-Bénigne de Dijon. Amis auditeurs, si vous ne connaissez pas la cathédrale Saint-Bénigne, il faut venir la découvrir. Elle recèle de nombreuses œuvres d'art. Sa rotonde, ses monuments, ses sculptures, ses peintures remarquables. Vous pourrez aussi vous y donner quelques challenges, comme tenter de retrouver le lieu où sont les restes des ducs de Bourgogne. Plus encore, elle abrite une pierre tombale de celui qui faillit devenir roi de Pologne dans les temps médiévaux, très tourmenté. Si vous avez visité la rotonde avant sa restauration, vous en connaissez la version retravaillée et très modifiée par le XIXe siècle. Aujourd'hui, je vous propose de retrouver la rotonde d'origine, consacrée le 30 octobre 1016 par Guillaume de Volpiano. C'est le mag se termine. Je vous remercie de votre attention et vous dis à très bientôt lors de notre prochaine émission.